ce n'était point par compassion, ni davantage par amitié, que Louis XIV avait rappelé d'exil une seconde fois sa cousine de Montpensier. Il avait renoncé à lui faire épouser Alphonse VI, puisqu'elle s'opiniâtrait dans son refus, mais il suivait son idée de la marier, où il serait utile pour son service. Et il avait besoin de l'entretenir d'un autre projet. Pendant qu'elle était en pénitence à eux, l'une de ses petites sœurs, Mademoiselle de Valois, avait épousé le duc de Savoie, Charles-Emmanuel II, et était morte, 14 janvier 1664, au bout de quelques mois de mariage. Les veuvages de princes étaient rarement longs. Le roi avait arrangé tout de suite d'offrir les millions de la grande mademoiselle au duc de Savoie, qu'il importait de rattacher à la France et de dédommager le roi de Portugal en lui donnant l'une des princesses de Nemours. La nouvelle combinaison était connue du monde politique. On lit dans le journal d'Olivier d'Ormesson à la date du 4 juin 1664.
Mademoiselle Le Pelletier me dit encore le retour de Mademoiselle d'Orléans, et le roi lui avait écrit de sa main pour lui permettre de revenir sans en avoir rien dit à la reine-mère que c'était en vue du mariage de Savoie.
Louis XIV ne s'était pas résigné sans effort à procurer un si bel établissement à une ancienne frondeuse. On voit par une lettre du grand Condé à la reine de Pologne que la rancune royale avait dû céder à la raison d'État. Fontainebleau, 3 juin 1664.
Mademoiselle, ayant inscrit au roi sur la grossesse de la reine, sa majesté lui a fait réponse, qui est une marque qu'il est fort adouci pour elle. Tout le monde même croit qu'elle reviendra et que sa majesté consentira à son mariage avec monsieur de Savoie. Qu'ils n'ont pas voulu jusqu'à cette heure à cause qu'il aimait mieux celui de mademoiselle d'Alençon. Mais comme elle est fort laide, et que pour lui donner un nouvel agrément, elle a la plus furieuse petite vérole du monde, et que le roi croit que monsieur de Savoie ne se résoudra pas volontiers à l'épouser. Il appréhende qu'il ne songe à épouser une de la maison d'Autriche, et ainsi, je crois qu'il se résoudra plutôt à faire le mariage de mademoiselle. Quelque aversion, d'ailleurs, qu'il y ait, ce qui n'est pas pourtant encore assuré. Mais j'y vois beaucoup d'apparence.
Il n'y avait pas de danger que mademoiselle fît la petite bouche pour ce mari-là. Le roi le savait bien. Elle arriva à Fontainebleau dans la première quinzaine de juin 1664. Toute la cour était allée à sa rencontre, sur la grande route. Mademoiselle était la première personne qui eût fait céder le roi, depuis qu'il avait pris le gouvernement. C'était une gloire. Elle le sentait bien et rentrait la tête haute. Louis XIV eut le bon goût de ne pas lui en vouloir. Il l'accueillit gracieusement et borna sa vengeance à la taquiner pendant les quelques jours qu'elle passa auprès de lui.
« Avouez, lui disait-il, que vous êtes fort ennuyée. »
Elle se récriait.
« Je vous assure que non, et que je pensais souvent, on eût bien attrapé à la cour, si l'on croit me mortifier, car je ne m'ennuie pas un moment. »
Il en croyait ce qu'il voulait. Un soir, après la comédie, il la mena sur une petite terrasse et prit la parole en ces termes.
« Il faut oublier le passé. Soyez persuadé que vous recevrez toutes sortes de bons traitements de moi. »
à l'avenir et que je vais songer à votre établissement. Monsieur de Savoie est un bien meilleur parti qu'il n'était. Sa mère est morte. Il connaîtra la différence qu'il y a de votre sœur à vous. Ainsi, vous serez fort heureuse et j'y travaillerai sérieusement. » Ce discours fut suivi d'un échange d'effusion. « Nous venons de nous embrasser, ma cousine et moi. » dit le roi en reparaissant devant sa cour, et le mot d'ordre fut saisi au vol. La grande mademoiselle eut à Fontainebleau une semaine quasi triomphale. Rentrée dans sa province, elle ne sut malheureusement pas s'y tenir en repos. Le roi, ses ministres et ses ambassadeurs travaillaient à son mariage. Il n'y avait qu'à les laisser faire. Mademoiselle voulut les aider. Pour commencer, elle entreprit de réduire au silence la vieille madame qui était outrée de son empressement à remplacer sa cadette. Il en résulta de telles criailleries que Louis XIV dut intervenir pour faire taire toutes ses femmes. Il écrivit à mademoiselle. « Ma cousine, je ne puis pas empêcher que les gens de ma tante ne parlent, mais je ne crois pas qu'elle dise que je lui ai promis ma protection contre vous. Je vous aime et vous considère autant que les plus pressants motifs qui passent dans votre esprit sont capables de m'y convier. Et assurément, mon intention est de vous faire plaisir en tout ce qui se pourra. Je vous avoue seulement que vous m'en ferez beaucoup si vous voulez, de votre part, faciliter les choses un peu. C'est en cela que consiste toute ma partialité. Et n'ayant rien à ajouter à une explication si sincère de mes sentiments, je finis cette lettre, priant Dieu. » Écrit à Fontainebleau le 12 juillet 1664. Signé Louis. Il était au-dessus des forces de mademoiselle de ne pas s'en mêler. Sa persévérance à faire la mouche du coche lui attira une nouvelle lettre du roi, le ton en est d'un homme tout à fait impatienté. « Ma cousine, je vois clairement par votre dernière lettre qu'on ne vous informe point au vrai de ce qui se passe en Piémont. Car si j'avoue être mal satisfait de mon ambassadeur, ce serait de ce qu'il a exécuté mes ordres avec tant de chaleur que le duc de Savoie s'est plaint par ses dépêches au comte Carroccio, qu'il semblait qu'on ait voulu forcer en une chose qui a toujours été entièrement libre, même au plus misérable particulier. Jugez par cette circonstance que la conduite qu'on vous propose et que vous me suggérez serait fort bonne. Je remarque même beaucoup de malice en ceux qui vous donnent de pareils avis, car leur but est de vous mettre dans l'esprit que si l'affaire ne réussit pas, c'est que je ne l'aurais pas voulu. Et je vois que vous êtes déjà persuadé qu'elle dépend purement de ma simple volonté, en la portant plutôt d'une manière que d'une autre. Mais je ne suis pas résolu de me conduire par le caprice de ces gens-là. Je vous ai dit que je souhaite sincèrement votre satisfaction. Et je vous le confirme encore. La seule amitié que j'ai pour vous me donnera ce sentiment. Et je connais de plus que c'est mon service. Vous ne devez donc pas douter que je fasse tout ce qui sera effectivement plus utile pour faire réussir la chose. Et pour les moyens, je ne tirerai pas grand avantage de dire que je vois mieux ce qui se doit faire que ceux qui vous parlent ou qui vous écrivent. Cependant, je prie Dieu. » À Vincennes, le 2 septembre 1664. Signé Louis.
Le roi disait la vérité. Le duc de Savoie ne voulait pas de la grande mademoiselle. Charles-Emmanuel n'avait jamais digéré l'affront du voyage de Lyon. Tout il avait vu sa sœur revenir duchesse de Parme, quand il s'imaginait la voir reine de France. Il n'était pas fâché de rendre à Louis XIV la monnaie de sa pièce, en lui refusant à son tour une princesse de sa famille, dont les années au surplus lui faisaient peur, car il désirait avoir des enfants. Il avait aussi un compte d'amour-propre à régler avec mademoiselle, qu'il avait dédaigné du temps où elle était jeune et belle. À cette époque lointaine, Charles-Emmanuel, bien que de 7 ans son cadet, n'avait pas caché qu'il ne se ferait pas prier pour l'épouser.
Tant par quelque estime de sa personne que par le désir de son grand bien.
Mais il en avait été du duc de Savoie, comme du prince de Galles, et plus tard, du prince de Lorraine.
Quoi ? Moi ? Quoi ? Ces gens-là ? L'on radote, je pense, à moi les proposer. Hélas, ils font pitié. Voyez un peu la belle espèce.
Devenue moins exigeante avec les années, mademoiselle trouvait un homme qui n'entendait pas jouer le rôle de pis-aller. Il tint bon, et ce fut encore une Nemours, sœur de la reine de Portugal, qui hérita du mari destiné à la grande mademoiselle. À force d'avoir fait la difficile, il arrivait à cette princesse la même aventure qu'à la fille à marier de La Fontaine. Elle allait en être réduite à épouser un cadet de Gascogne, le
malotru
de la fable. Je crois du reste que La Fontaine avait pensé à elle en écrivant la fille. On s'est demandé s'il n'aurait pas emprunté son sujet à une épigramme de Martial. Il n'avait pas eu besoin d'aller chercher si loin. Le 8 juillet 1664, La Fontaine avait été nommé gentilhomme, servant de la duchesse douairière d'Orléans. C'est dire s'il était au courant des mariages manqués et des petits ridicules de la belle fille de la maison. Nous possédons ses confidences sur le Luxembourg, côté madame et côté mademoiselle, dans une épître dédiée à Mignon, le petit chien de sa maîtresse. Pour La Fontaine, le Luxembourg était le palais où l'on n'avait pas le droit d'être amoureux. C'était défendu chez madame, où il fallait se contenter des
Vos sourires
de madame de Crissé. L'original de la comtesse de Pimbèche et se défier d'un ancien capucin, devenu évêque de Bethléem en Nivernais, et qui avait la surveillance de ses conversations par le bas, dit l'épître pour Mignon. Si l'évêque de Bethléem nous entendait, Dieu sait, la vie. On n'avait pas même la ressource de se réfugier chez la divinité d'en face. Les amoureux y étaient plus mal vus d'année en année, et La Fontaine avait deviné pourquoi. L'antipathie que leur avait toujours témoigné mademoiselle était à présent doublée d'envie. L'échec du mariage de Savoie avait déterminé une crise pénible dans la vie de cette pauvre héroïne en disponibilité. Pour la première fois, on lui avait fait sentir qu'elle était hors d'âge pour le mariage, et elle était de celles qui ont le terrible malheur de ne pas pouvoir se résigner à leur déchéance de femme. Leur révolte dégénère souvent en bizarrerie. C'est une terrible injustice de la nature envers ces créatures douloureuses qui n'auraient souvent pas demandé mieux que d'obéir à ses lois en devenant épouse et mère.
des troubles nerveux donnent à la tragédie de leur âme des dehors burlesques et le monde rit sans comprendre. Mademoiselle a été de ces infortunés. La fontaine l'avait bien pénétré lorsqu'il écrivait. Son miroir lui disait « Prenez vite un mari ». Je ne sais quel désir le lui disait aussi. Le désir peut loger chez une précieuse. Il est très difficile de raconter le déclin de la grande mademoiselle sans provoquer tout au moins le sourire. Et il serait pourtant dommage que cette fière figure prît sur la fin, si peu que ce fût, une ressemblance avec Bélise. Elle restait désemparée, sans but, au moment même où les femmes se voyaient exclues de l'action après s'être grisées sous la régence d'Anne d'Autriche. Les hommes d'alors les avaient encouragées à entrer avec eux dans la vie publique. Grâce à leur complicité, les femmes étaient montées au fait de la puissance et de la domination et avaient vécu l'un des moments les plus romanesques de leur histoire. L'habitude était prise d'être traitée en égale par les hommes. Quand la volonté d'un monarque qui se déliait d'elle les précipita brusquement de ses sommets. On a vu à propos de la Valère avec quel mépris Louis XIV parle des femmes dans ses mémoires. Il avait sur leur sexe des idées orientales, se rapprochant de celles que ses ancêtres espagnols avaient héritées des Maures. Il ne pouvait point se passer d'elles, mais il ne leur demandait que du plaisir. Au fond, il ne les croyait pas capables de donner plus. Il les jugeait inférieures et dangereuses, peut-être en souvenir de Marie Mancini, qui avait failli l'entraîner à un crime contre la royauté. À peine eut-il le pouvoir, toutes celles qui étaient sorties du rang durent se hâter d'y rentrer. Il n'était plus permis aux femmes d'avoir de l'importance qu'en amour. Louis XIV ne faisait pas d'exception pour ses maîtresses. Elles ne furent jamais admises, y compris l'ambitieuse Montespan, être autre chose que belle et amusante. Quand Madame de Maintenon, sur la fin du règne, eut la gloire de relever son sexe dans l'estime du roi, elle n'en bénéficia que pour son compte personnel. La généralité n'y gagna rien. Le pli était trop bien pris. Réduite tout d'un coup à une existence où l'horizon s'était refermé, les femmes la trouvèrent pâle et mesquine. Elles demandèrent à l'amour, puisqu'on ne leur laissait que cela, de leur rendre les émotions violentes dont elles avaient pris l'habitude dans les camps et dans les conseils. Il sortit de là des choses étranges qui se remarquèrent peu tant que la reine-mère fut de ce monde. Anne d'Autriche obtenait, faute de mieux, que l'on sauvât les apparences. Elle, morte, on eut la débâcle, et les choses étranges devinrent des choses effroyables.